Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté envers chacun de nous. Et on se retrouve ici ce matin, Seigneur, avec une attente pour tout ce que tu as à nous dire. Ce matin, on ne vient pas juste pour recevoir plus d'informations, Seigneur, mais on vient avec un désir de te rencontrer, un désir d'apprendre plus sur qui tu es, Seigneur, un désir que tu nous réconfortes là où on a besoin d'être réconforté, mais aussi que tu nous mettes au défi là où on a besoin d'être défié. Et Seigneur, ce matin, que ton esprit se révèle à nous, que tu élargisses, Seigneur, notre manière de voir les choses afin qu'on puisse voir les choses comme toi, tu les vois. Donc ce matin, Seigneur, viens parler à chacun de nos cœurs. On prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'avais envie de faire les choses un peu différemment de d'habitude. Plutôt que juste prêcher un message ou prêcher, j'avais envie de faire un peu d'enseignement. Vous pensez que ça peut être bien ? Cool. On est dimanche matin ou dimanche après-midi, on est mature, on est éveillé, prêt pour une leçon. Non, ça va être fun. Mais j'avais à cœur d'enseigner. Je pense que c'est important de... Par moments, il y a des moments où on prêche, on veut juste prêcher de l'encouragement et on veut juste aller de l'avant, mais je pense qu'il y a aussi des moments où c'est important juste de comprendre certaines réalités, comprendre certaines choses. Et vraiment, c'est ma prière que ce matin, ça soit quelque chose qui soit utile et qui nous aide. Pour donner un peu de contexte, donc la semaine dernière, on était, évidemment, c'était le week-end de Pâques, et je pensais, il y a deux réflexions qui ont un peu forgé un peu la réflexion pour le message d'aujourd'hui. La première, c'était vendredi soir. Donc on se retrouve à la Cigale, vendredi saint, et on est en train de célébrer évidemment la mort de Jésus à la croix. Et en réalité, nous on se retrouve un vendredi soir et on célèbre. On est rempli de joie, c'est vendredi soir, on vient. Et la réalité c'est que nous on vient avec tant de célébration parce qu'on connaît la fin de l'histoire. L'histoire de Jésus pour nous, elle est magnifique, elle est incroyable parce qu'on connaît la fin. Mais les disciples se sont retrouvés, eux, le vendredi, et les proches de Jésus se sont retrouvés face à une réalité qui était tout autre. Ce qui pour nous est une promesse, donc le message de Jésus c'est la promesse, pour les disciples et les proches c'était la détresse. Et donc je pensais à ça. Ensuite je pensais au dimanche. On se retrouve à l'église et on a eu une de ces journées qui était absolument incroyable pour ceux qui ont pu être là, et une présentation créative qui présentait la mort et la résurrection surtout de Jésus ce jour-là. Et donc on avait une atmosphère de joie et tout se passait tellement bien. Et je me retrouve à regarder mon portable à un moment donné et à voir la réalité de ce qui se passe à l'autre bout du monde. De voir comment nous, on est dans la joie, on est rassemblés pour célébrer Pâques et qu'il y a des chrétiens qui sont au Sri Lanka et qui se retrouvent pour célébrer Pâques de la même façon que nous, mais qu'eux se retrouvent avec une réalité toute autre. Nous, on se retrouve dans la joie de la promesse et eux se retrouvent un peu dans le malheur de la détresse. Et donc, je pensais à ça et je me disais, la réalité, c'est que souvent, on prêche la promesse. On prêche la promesse, et c'est ce qu'on a fait le week-end dernier. On prêche la réalité de tout ce que Jésus a fait à la croix et tout ce que ça apporte à nos vies, et l'amour et l'espoir et la grâce. C'est beaucoup plus rare, par contre, quand on prêche sur la détresse. Pourquoi ? C'est simple, parce que la promesse, c'est génial, mais la détresse, c'est un peu moins cool. Je regardais la définition du mot, et la détresse, ça parle de sentiment d'abandon, ça parle de solitude, ça parle d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Et la réalisation que je me suis faite, c'est que combien d'entre nous savons que derrière la promesse, derrière n'importe quelle promesse, se cachent souvent des grands moments de détresse ? Est-ce que c'est une réalité, ça, que parfois on a la promesse devant nous et on sait ce que Dieu peut-être nous a promis, on sait les choses à quoi s'attendre, mais ce qui accompagne cette promesse, c'est souvent des années de détresse. Et je pense à, dans la Bible, il y a plusieurs exemples. J'ai donné l'exemple de la vie de Jésus, qui est un moment où voilà, il y a la promesse du Messie à venir et on se retrouve dans une période où il pensait que tout était terminé, mais il y a tant d'autres exemples dans la Bible. Il y a Joseph, par exemple, qui voit dans un rêve et qui reçoit un peu cette promesse de Dieu qu'un jour il allait régner, avoir de l'influence, et il se retrouve en fait à partager ce rêve et à se faire vendre comme esclave par ses frères et à passer des années dans la servitude. Il y a l'histoire d'Abraham qui reçoit la promesse de Dieu, qui va avoir une postérité, qui va s'étendre comme les grains de sable, et aussi nombreuses que les grains de sable. Et pourtant, il est d'un âge avancé, et il n'a jamais eu d'enfant jusqu'à cet âge-là. Il y a aussi le roi David, Le roi David qui reçoit la promesse qu'il va être roi, il est oint et on dit qu'il va être roi. Et il se retrouve à devoir fuir pour sa vie parce que le roi Saül est en train de le poursuivre pour essayer de le tuer. La réalité, c'est que chacun de ces personnages, chacune de ces personnes dans la Bible a reçu une promesse, mais entre le moment présent, la réalité présente et l'accomplissement de cette promesse, il y a toutes sortes de détresses qui ont accompagné le chemin. Vous me suivez ? Et donc, je pense que ce qui est important pour nous de se rappeler, quand on regarde des histoires comme ça et quand on étudie ça un petit peu, c'est de se rappeler que c'est tout à fait normal, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de faire face à des moments de détresse. C'est tout à fait normal. Et ça semble contre-intuitif parce qu'on s'imagine que quand on donne notre vie à Jésus, tout devrait aller comme sur des roulettes. Tout devrait bien se passer quand en réalité, c'est tout à fait normal. Ou parfois, on est chrétien depuis tant d'années et on ne comprend pas pourquoi les choses sont encore comme ça ou pourquoi on fait encore face à certaines épreuves. La réalité, c'est que c'est tout à fait normal. Je pensais à ça dans le contexte où je ne sais pas si vous réalisez, mais on est dans une société, et moi j'en fais complètement partie, où on a développé un peu une faible tolérance à la douleur. Vous savez ce que je veux dire ? Le moindre mot de tête, on prend un petit cachet tout de suite parce qu'on traite les symptômes plutôt que de traiter la racine du problème. Et je pense à la même chose, je veux dire, on pourrait parler même du fait d'aller à la salle. J'ai commencé à la salle, je sais que ça paraît. Je sais que c'est très évident quand vous me regardez, vous êtes ce gars, il va à la salle. La réalité, c'est que j'ai une très faible résistance à la douleur. histoire vraie, hier, on a fait la vallée de la Loire avec ma copine, sa famille, et j'avais fait la journée des jambes, le leg day, vous savez, le fameux leg day, 2 jours avant. Laissez-moi vous dire que hier, je marchais comme ça, partout, c'était horrible. Et il y avait beaucoup de marches dans les châteaux, c'était magnifique. On a une faible tolérance à la douleur. Et donc, tout ça dans le contexte. On vit dans un monde où on cherche la facilité, on cherche un peu un remède à nos maux, on cherche, des fois même, quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit de l'Évangile, on vient à Jésus avec nos problèmes parce qu'on recherche juste un remède et on ne cherche pas parfois à traiter ce qui est vraiment au fond de chaque chose. Donc, ma prière ce matin, c'est que ce message soit un encouragement pour nous. Que si vous faites face, justement, si vous êtes nouveau chrétien, nouveau à la foi, et que vous dites, je ne comprends pas pourquoi je fais face à ça, ou vous êtes chrétien depuis des années, vous dites, hey, je ne comprends pas pourquoi je fais encore face à ce genre d'épreuve, laissez-moi vous encourager, c'est normal. Et on va regarder ensemble, mais qu'est-ce que Dieu a à nous dire au sujet de nos épreuves, ok ? Pensez que ça peut être utile ? Si vous prenez des notes, le titre du message ce matin, c'est « Quand promesse rime avec détresse ». Quand promesse rime avec détresse. On va commencer dans Romains chapitre 5. On va regarder les versets 1 à 5. Et donc c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église, l'église de Rome. Et voici ce qu'il dit. Il dit « Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. » Et donc cette partie-là, je m'arrête là un instant, c'est la promesse. Ça, c'est la promesse. C'est le contenu de la semaine dernière quand on parlait de la mort, mais de la résurrection de Jésus, de la vie que ça nous donne. Et donc, si on le lit, voilà, ça dit on est rendu juste, donc ça veut dire qu'on est pardonné, on est en paix. On a accès à la grâce de Dieu. On a l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Si je peux le résumer, c'est le message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est vraiment c'est le message d'espoir pour l'humanité, pour le monde que Dieu aime tant. Mais si on continue à lire, donc ça dit, ce qui nous réjouit, c'est d'avoir part à la gloire de Dieu. Mais verset 3, bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. La détresse produit la patience. C'est la première chose qu'on voit. La détresse produit la patience. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, tous ceux qui me connaissent personnellement savent pertinemment que la patience n'est pas une de mes vertus. Littéralement, ça n'en est pas une. Moi, j'imagine très bien, vous savez, dans la Bible, ça parle du fruit de l'esprit. Donc, j'imagine que quand Dieu était là en train de distribuer le fruit de l'esprit à tous ses enfants, j'ai une petite scène dans ma tête, je suis un peu créatif, mais voilà, l'amour, la joie, ça, il me les a donnés. La patience, il a sauté mon tour. Je vous assure, il est passé à quelqu'un d'autre, Il y en a d'autres qui sont comme moi ? Voilà, ok. J'ai des amis dans la pièce, c'est bien. Donc la patience, c'est pas ma force. Donc quand je lis ce passage, ça dit que la détresse produit la patience. Et je sais pas vous, mais ça me semble complètement insensé. La détresse produit la patience. Donc moi je sais pas vous, mais quand je fais face à une situation de détresse, je suis tout sauf calme et en paix. Vous savez ce que je veux dire ? Genre je me retrouve en fait complètement anxieux. Je me retrouve à me poser plein de questions. Je me retrouve à essayer d'analyser un peu tous les chemins possibles pour me sortir de cette situation. Et donc, quand on parle de détresse et de patience, pour moi, je les vois comme des antonymes. Dans la version second 21, le mot patience, il est traduit par persévérance. Et quand on parle de persévérance, ça parle d'endurance, ça parle de longanimité. Et je pensais à ça parce que j'ai souvent entendu des gens dire que quand il s'agit de la patience, justement, on fait face à une épreuve et donc on devrait prier à Dieu pour de la patience. Et j'ai entendu des gens dire, mais en fait, tu ne devrais pas prier pour la patience. Parce que la réalité, c'est que Dieu ne donne pas la patience. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous donne des épreuves qui développent notre patience. Et donc, si c'est comme ça que ça fonctionne, j'ai presque envie de dire, bah, Dieu, ok, envoie les épreuves parce que je sais que j'ai besoin de patience. Voilà, ça c'est la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et la chose à se rappeler, et je pense que c'est important, c'est que la patience produit plus pour nous que ce que l'épreuve peut faire contre nous. La patience fait plus pour nous que ce que l'épreuve peut faire contre nous. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on peut tirer plus de bénéfices de la patience qui est développée en nous que le mal qui peut nous être fait au travers de n'importe quelle épreuve par laquelle on peut passer. L'apôtre Paul, il décrit, dans ce passage, il décrit la détresse comme un sujet de joie. Il dit « Nous nous réjouissons même dans nos détresses ». Et on le chantait tout à l'heure dans ce chant, on dit « Je me réjouirai même dans l'épreuve ». C'est tiré de ce passage. Et pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit « Je me réjouis dans l'épreuve », »,« Je me réjouis dans la détresse » Parce qu'il n'y a rien comme une situation de stress pour développer notre persévérance. Il n'y a rien comme une épreuve pour développer notre patience. C'est la même réalité quand on est au sport. Je reviens encore à l'exemple du sport. Et je me suis un peu moqué de lui au premier service, mais je vais le faire à nouveau parce qu'il n'est pas là, je crois. Donc quand je vais m'entraîner, j'ai un ami avec qui je vais. Je ne vais pas vous dire c'est qui. Mais qui s'est retrouvé à venir au sport avec moi cette semaine. Et en fait, c'était sa première fois. Et on a fait le développé couché, vous savez. Et en fait, il s'est retrouvé pendant des jours et des jours à avoir mal. Mais il m'écrivait tous les matins, il disait mais Jonathan, c'est pas possible. Et la réalité, laissez-moi vous dire, et c'est pas pour lui faire honte, mais il n'y avait pas de poids sur la barre. C'était la barre toute simple. Il n'y avait même pas les petits 2,5 de chaque côté, c'était la barre. Je parlais de faible résistance à la douleur. Voilà. Je vous dis pas c'est qui, mais je vous dis juste qu'il vient d'un pays où il y a beaucoup, beaucoup de moutons. Que ceux qui connaissent sachent. face à diverses épreuves, okay, voici ce que Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. On va passer à 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 17. Il dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères, par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Nos détresses présentes sont passagères et légères. Je vais m'arrêter là pendant un instant. Nos détresses présentes sont passagères et légères. On peut lire ce passage tellement rapidement parfois qu'on en oublie le sens. Vous savez ce que je veux dire ? Des fois, on lit des passages parce que voilà, c'est le chapitre du jour à lire ou je ne sais pas, et on passe par-dessus et on perd de vue la réalité. Est-ce que vous savez de quoi Paul parle quand il parle des détresses passagères et légères? Si vous ne savez pas, on va juste avancer de quelques chapitres. Au chapitre 11, il nous fait toute une liste, toute une description. Voici ce qu'il dit, c'est à partir du verset 24. Il dit « Cinq fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. Trois fois, les Romains m'ont frappé durement. Une fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. Trois fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et une fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. » Après, il dit « J'ai fait beaucoup de voyages. » Cette partie-là me semblait bien. Mais ensuite, il dit « Mais j'ai connu beaucoup de dangers. Dangers à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs, des non-juifs. Dangers dans les villes, dangers dans le désert, dangers sur la mer, dangers des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants. J'ai souvent manqué de sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid, j'ai manqué de vêtements. Et je n'ai même pas parlé de la chose la plus importante, mon souci de toutes les églises. J'y pense tous les jours. Donc je ne sais pas vous, mais quand je lis une liste comme ça, ça me fait un petit peu relativiser. Juste un petit peu. La réalité, c'est qu'à part les travaux très fatigants, ça j'ai connu, le manque de sommeil, ça je connais régulièrement, le souci pour l'église à la limite, à part ces trois choses-là, je pense qu'il n'y a rien dans cette liste auquel j'ai fait face. J'ai jamais été fouetté pour ma foi. On m'a jamais frappé durement. Bah si, par moment, mais bon. C'est pour... c'est par des faux frères, ça. On m'a jamais jeté des pierres. J'ai jamais passé la nuit dans l'eau. J'ai jamais manqué de nourriture. J'ai jamais manqué de vêtements. La réalité, c'est que je pense que peu d'entre nous avons connu cette dure réalité. Et ce que je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de sous-estimer les épreuves auxquelles on fait face. Je pense que c'est important de se rappeler ça, parce qu'on peut facilement regarder une liste comme ça et se dire « Ben oui, lui, il a passé par diverses épreuves, moi, mes épreuves sont rien à côté. » Et pourtant, sentir que nos épreuves sont toutefois réelles. Et donc, je ne suis pas en train de négliger ce par quoi on peut traverser. Donc, je ne veux pas m'attarder à « Est-ce que ces épreuves sont pires que les miennes ?» ou peu importe. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est que toutes ces épreuves qu'il a traversées, Paul est en train de les décrire comme passagères et légères. Donc, je ne sais pas vous, moi, quand je lis ça, ça me semble peut-être passager, mais ça ne me semble pas léger. Hein. La réalité, c'est que ça me semble plutôt très difficile, mais il est en train de dire toutes ces épreuves sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Paul a compté toutes ces épreuves comme un sujet de joie, parce que toutes ces détresses n'étaient rien en comparaison avec la promesse que Dieu avait pour sa vie. Et la réalité, c'est que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Aucune de nos épreuves ne peut même se mesurer contre le poids insurpassable de ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Aucune. Aucune. De la plus petite à la pire des épreuves. Je ne suis pas en train de dire que Dieu les a mis là pour... Mais il va s'en servir. Sûr, à chaque coup. Donc, on a dit la détresse produit la patience. Donc la détresse produit l'endurance. La détresse produit ce fait de persévérer. Et donc, la détresse produit la patience et la patience produit la résistance. Pour ça, j'ai ramené un petit objet pour illustrer le prochain point. Ici, un fer à lisser. En 2006, je dois vous parler d'une époque dans ma vie. En fait, en 2006, j'étais en Australie, j'étais à Hillsong College, donc à l'école biblique de notre église, et j'ai une photo en fait, du groupe Hillsong United de l'époque. Hillsong United, qui d'ailleurs ont sorti un nouvel album cette semaine, qui est absolument incroyable. Mais eux, c'était mes héros. J'avais 17 ans, et c'était le groupe de jeunes de notre église en Australie, et j'avais juste hâte d'arriver en Australie pour pouvoir expérimenter cette équipe de louanges, expérimenter ce que vivait l'église là-bas. Et je regardais ces gars, je regardais Joël, je regardais JD, le gars du milieu, avec leurs longs cheveux. Et la réalité, c'est qu'ils se lissaient les cheveux. Je sais que c'est... Voilà. Et j'aimerais pouvoir me moquer d'eux, mais par contre, je dois admettre qu'en quelque sorte, j'avais envie de m'intégrer à la culture en Australie. J'avais envie de peut-être un jour servir Dieu comme eux, et donc... Je me suis rajouté un peu dans le groupe, je ne sais pas si vous voyez. Je dois admettre qu'il fut une époque dans ma vie où je me lissais les cheveux et ils étaient très longs. Vous pouvez retirer cette image, s'il vous plaît. Ce fut un... Voilà, je l'ai admis maintenant. Le pire moment du message est passé, c'est bon. Attendez, je vais le garder, j'en ai encore besoin. Donc ce qui s'est passé, donc en 2006-2007, ma famille vient me rendre visite. Donc pour ceux qui ne savent pas, je viens du Canada et je suis en Australie. Ma famille vient nous visiter et ma sœur apporte son fer à lisser pour ses cheveux, ce qui est tout à fait beaucoup plus normal que pour moi de me lisser les cheveux. Aucune condamnation si vous êtes un homme et que vous vous lissez les cheveux, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà fait et je le referai à nouveau si je devais. Passons chose. Ma sœur, elle ramène son fer à lisser. Et ce qu'il faut savoir, donc au Canada, les prises électriques ne sont pas comme en Europe ni comme en Australie. Donc le courant qui passe par les prises, c'est du 120 volts. Petit cours de science ce matin. 120 volts. Et en Australie, c'est du 240. Si je ne me trompe pas, en France, c'est du 230. 220. J'ai lu 230 hier sur Internet. Internet m'a menti. Donc, ce qui se passe, elle ramène son fer à lisser du Canada, qui est prêt pour du 120, et elle arrive en Australie où il y a du 240, et elle le branche, donc elle met un petit convertisseur. Mais en fait, le convertisseur ne convertit rien du tout, donc ça fait que simplement changer la prise. Et pour n'importe quel Nord-Américain qui a déjà voyagé, vous savez de quoi je parle. Donc elle a branché son fer à lisser, elle a commencé à se lisser les cheveux, et le truc a sauté entre ses mains. Donc, ce que je veux dire par ça, donc, si vous êtes un peu geek comme moi, je pense que ça va vous parler. Je me suis mis à regarder des vidéos sur YouTube. Je vais juste ranger ça parce que ça prend de la place. Je me suis mis à regarder des vidéos sur YouTube sur comment fonctionnait l'électricité. Et la réalité, c'est que le fer à lisser qui est conçu pour supporter une tension de 120, il se retrouve avec un surplus de courant. Ah oui, oui, oui. Ça va parler à quelques personnes. Ah, j'ai aussi une image qui... Ah non, non, je vais le montrer après. Je l'ai oublié au premier service, mais je vais vous la montrer. Donc ça, c'est un circuit électrique. Très simple. Parce que j'y comprends pas tout. Mais circuit électrique, on se retrouve avec un surplus de courant quand la tension qui rentre est trop grande et ça fait sauter le circuit. Donc le fer à lisser, c'est ce qui s'est passé. Donc il faisait 120 et on est dans une prise de 240, ça fait sauter. Dans les circuits électriques, il y a ce composant qu'on appelle la résistance. Donc le petit R... Et j'ai l'autre image que je préférais montrer pour ceux, ça va peut-être plus vous parler. Donc la résistance, voici comment ça fonctionne. Ça prend la tension qui rentre, et la résistance, elle contrôle... Est-ce qu'on a la prochaine image ? Donc on a la résistance qui rentre et qui écrase un peu le circuit, qui écrase un peu la tension qui rentre pour sortir le bon montant de courant de l'autre côté. Est-ce que ça vous parle un peu plus ? Donc il y a la tension... Et après, il y a la résistance, donc Monsieur Ohm, qui retient un peu le voilà, et qui laisse passer juste le bon montant de courant. La loi d'Ohm. Vous êtes prêts pour un cours de science ? Ok, la loi d'Ohm, qui s'en rappelle ? Résistance égale... Non, personne ne s'en rappelle. Tension divisée par courant. Tout le monde s'en rappelle ? Tension divisée par courant. Si on intervertit un peu, on peut aussi mettre le courant d'un côté. Donc courant égale tension divisée par résistance. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas modifier la tension. La tension dans la prise, c'est 240, c'est 230, c'est 120. Ça ne change pas. La variable qui change, c'est la résistance. Donc si la résistance est plus forte, l'effet de la tension est plus faible. Et ce qui se passe, c'est que c'est pareil dans nos vies. La tension à laquelle on fait face, on ne peut parfois pas la contrôler. On fait face à des situations qui sont les situations, mais la chose que l'on peut contrôler, c'est la résistance. On peut travailler notre résistance afin que le montant de courant qui entre dans le circuit ne fasse pas tout sauter. Et donc, la différence entre le fer à lisser européen et le lisser du Canada, c'est ça. C'est que le fer à lisser d'ici, il a plus de résistance que celui du Canada. Plus grande est la résistance, moins le courant a la possibilité de faire sauter l'appareil. Donc, plus grande est notre résistance, moins les hautes tensions de la vie ont le risque de générer un surplus de courant qui est capable de nous rendre HS. Donc, ma question pour nous, encore peut-être en mode enseignement, mais comment est notre résistance face à l'épreuve aujourd'hui ? Est-ce qu'on fait partie du genre de gens qui abandonnent dès que ça devient un peu trop difficile ? Est-ce qu'on fait partie justement de cette génération qui dès la moindre épreuve, débranche le courant et dit hey, « je ne peux pas supporter cette tension » Ou est-ce qu'on fait partie de la génération qui dit hey, « je vais développer ma résistance afin de pouvoir avancer dans tout ce que Dieu a pour moi » Amen. Donc, la détresse produit la patience. La patience produit la résistance. Donc résistance qui pour moi, la différence là, c'est que la résistance, c'est pas juste passif. Donc on a la patience, on a la persévérance, mais il y a quelque chose de... La résistance, elle combat contre le courant. Vous voyez comment le gars, le petit bonhomme, monsieur Ohm, il tirait. Donc il est en train de fournir un effort pour contrôler le courant. Donc la patience produit la résistance, mais la résistance produit l'espérance. Et moi ce que j'aime là-dedans, c'est que quand on commence à comprendre ce que la résistance fait dans nos vies, quand on commence à voir notre résistance à l'œuvre, quand on voit qu'elle commence à nous faire voir comment on peut prendre le dessus sur une situation, ça commence à nous donner de l'espoir. L'espoir, il arrive à ce moment-là. On pourrait espérer que Dieu nous donne tout comme ça. Que, comme je disais tout à l'heure, que Dieu nous déverse sa patience, qu'il nous déverse sa bonté, qu'il nous déverse toutes ces choses sans que nous ayons à passer par différentes épreuves. Mais pour quelconque raison, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que Dieu lui-même s'est soumis à ça. Jésus ne s'est pas épargné aucune souffrance. Il s'épargnait aucune souffrance. Il était le Fils de Dieu venu sur terre et il est passé au travers de ça pour apprendre l'obéissance. Donc si Jésus, le Fils de Dieu, devait apprendre l'obéissance au travers de la souffrance, à combien plus forte raison, ça serait la même chose pour chacun d'entre nous. Mais l'espoir est là, car quand notre résistance est à l'œuvre, on peut voir que les épreuves sont divinement ordonnées. Elles sont nécessaires pour notre discipline en tant qu'enfant de Dieu. Elles ne sont que momentanées, mais elles ne viennent jamais sans l'abondante promesse que nous aurons des chants à chanter pendant la nuit. Elle vient toujours avec la promesse qu'il nous accompagne là où nous sommes. La détresse produit la patience la résistance l'espérance. Et ensuite au verset 5, je reviens à Romains, Paul nous dit « Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Est-ce que je peux vous donner une dernière formule ? Vous êtes prêts pour une dernière formule ? Donc si on met de côté la résistance maintenant et qu'on parle de puissance, la formule est la suivante. Puissance en watts, ça se mesure par la tension multipliée par le courant. La tension en volts, courant en ampères. Et donc dans l'exemple de tout à l'heure, on parlait de résistance qui retient le courant, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de courant qui rentre dans l'appareil. La réalité par contre, c'est que certains appareils ont besoin d'énormément de courant pour fonctionner. Vous savez, genre, si on parle d'un fer à lisser ou d'un séchoir à cheveux, justement, la résistance, c'est ce qui produit la chaleur, c'est ce qui fait en sorte que ça génère, ça a besoin d'énormément d'énergie pour produire le résultat attendu. Donc la réalité, c'est que c'est une chose d'avoir juste beaucoup de résistance, mais la réalité, c'est qu'on doit aussi avoir des appareils qui peuvent supporter beaucoup de courant afin d'avoir beaucoup de puissance. Parce que dans l'équation, si on regarde donc, la puissance de quelque chose, donc le nombre de watts, ce qui veut dire l'énergie que ça nécessite, ou que dépend de la tension multipliée par le courant. Et j'aime penser qu'encore une fois, la tension, on ne la contrôle pas. Si on applique ça à nos vies, la tension, c'est les choses auxquelles on n'a aucun contrôle, mais le courant, ça se construit par rapport à notre résistance, comme on a vu tout à l'heure. Plus grande est la résistance, plus grande est la capacité de générer du courant. Et le courant, c'est ce qui découle de nos vies. Et donc si on a travaillé notre résistance pour arriver à un stade où notre vie est capable de supporter plus de courant, ben plus de courant multiplié avec notre tension, et si la tension est de plus en plus grande, la promesse, c'est que la puissance sera encore plus forte. Et donc notre vie, au final, grande tension et grand courant, plein de choses qui découlent, va générer une vie qui est puissante, une vie qui a un impact dans notre monde. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est ça. C'est que la puissance, c'est quoi ? On connaît la puissance dans la vie. Et le verset le dit, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc si on prend la puissance du Saint-Esprit qui se couple à qui nous sommes, parce que Dieu choisit pour une quelconque raison de travailler en nous et au travers de nous, ça dépend de notre capacité à quelque chose découle de notre vie et à supporter la tension. Je ne vous ai pas perdu ? Cool. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer à une section plus application. Parce que c'est une chose d'avoir un cours de science, c'est une chose de juste lire quelques versets, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais inviter l'équipe de Longe à me rejoindre parce que je tire à la fin, mais je voulais nous laisser avec juste quelques clés. Quelques clés de, ok, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je fais face à l'épreuve, je travaille ma résistance, ou je sais pas, on comprend tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que je peux nous donner 5 choses que dès cette semaine, on peut mettre en pratique ? 5 choses qu'on peut déjà faire quand on fait face à différentes épreuves pour avancer. La première chose, et on va l'afficher à l'écran, et si vous vous rappelez juste de ces choses-là, vous pouvez oublier toutes les formules, c'est pas ce qui est le plus important, mais rappelez-vous de ceci. Okay, la première, est-ce que je peux t'encourager à te rappeler que Dieu est à l'œuvre ? Rappelle-toi que Dieu est à l'œuvre. Quand tu passes par une épreuve, c'est tellement important de se rappeler et de demander à Dieu qu'est-ce que tu es en train de faire. Comment est-ce que cette épreuve va faire grandir ma vie ? Vous savez, je pensais à ça, mais quand on passe par une épreuve, quand on travaille notre résistance, je parlais tout à l'heure d'espérance, on commence à voir comment ces choses nous aident. Quand on est peut-être plus jeune dans notre foi et on ne comprend pas, on est en mode « mais pourquoi les choses ne sont pas comme je voudrais qu'elles soient ?» La réalité, c'est que le plus qu'on avance et le plus qu'on voit un peu ce schéma dans nos vies, le plus qu'on voit comment les épreuves ont fortifié notre foi, on finit par être comme Paul et à se réjouir dans l'épreuve. Parce qu'on se dit, je sais que ça va produire quelque chose dans ma vie et je sais que ça va me faire grandir. Et donc, comme Paul, il faut se retrouver à pas juste regarder à les aux choses qu'on voudrait, mais dans ces moments-là, de fixer nos regards sur Dieu, de fixer nos regards sur Jésus et de dire, hey, je sais que je suis en train de passer par une épreuve, je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que si je fixe mes regards sur toi, tu vas m'aider à voir ce que tu es en train de faire dans ma vie. Et donc, peu importe l'épreuve, rappelle-toi que Dieu est à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre. La deuxième chose, c'est développe ta vie de prière. Développe ta vie de prière. Et peut-être je peux juste donner un peu ma révélation du moment autour de ça, mais je pensais à ça quand on prie. Je sais pas, on a souvent, tu sais, par exemple, même on a ce moment où on fait les sujets de prière à l'église, et on a toujours une liste de choses pour lesquelles on prie. Et ça, c'est une partie très importante de la prière, mais c'est pas tout. Parce que la réalité, en fait, même, c'est que quand on prie pour un sujet de prière, quelconque, on a un proche qui est peut-être loin de Dieu et on prie qu'il puisse se rapprocher, on fait face à une détresse financière, on fait face à la maladie, la réalité, c'est que quand on prie pour ces choses-là, on n'est pas en train d'essayer de convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. En réalité, quand je prie pour un ami qui ne connaît pas encore Jésus, bah, laissez-moi vous dire que Dieu aime encore plus cette personne que moi j'aime cette personne. Au final, Dieu veut le salut de cette personne tout autant que moi. Et donc, la chose à se rappeler quand on prie, c'est qu'on n'est pas juste en train de demander notre liste de choses comme si Dieu a dit « Ah, ok, ouais, je vais faire ça parce que je n'y avais pas pensé. » Non, la réalité, c'est que quand on prie, on s'insère dans la réalité de qui Dieu est. Vous savez, dans la prière, souvent, on a tendance à dire certaines phrases où on remercie Dieu pour sa grâce, son amour, on lui dit qu'il est grand, qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. La réalité, on n'est pas en train non plus de rappeler à Dieu quelque chose qu'il sait déjà. C'est lui-même. Il n'a pas besoin d'un rappel. La réalité, c'est que nous, on se permet d'entrer dans sa réalité. Ce qu'on fait quand on prie, en réalité, on avance en train de dire « Ok, Seigneur, je ne vois pas ce que ça fait, mais je veux entrer dans ta réalité. Aide-moi à voir les choses comment tu les vois. Élargis ma manière de voir. Toi, tu es grand. Toi, tu es au-dessus de tout ça. Moi, je ne le suis pas. Mais aide-moi à entrer dans cette réalité. » Et donc, c'est important de développer notre vie de prière. Et notre vie de prière, ce n'est pas juste une liste de demandes, mais parfois, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avec quelques amis récemment, c'est de lire les psaumes. Les psaumes, c'est des prières et qui sont remplies, c'est des chants de détresse. Laissez-moi vous dire, lire les psaumes, ce n'est pas toujours joyeux. Le roi David et tous les autres auteurs, ils faisaient face à la détresse, « Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est des moments réels. Si vous voulez quelque chose de réel et d'authentique, il n'y a rien comme les psaumes. Et pourtant, il passe par la détresse pour en ressortir avec une révélation plus grande de qui Dieu est. Donc développons notre vie de prière de cette manière complète. Prions les psaumes, prions ces passages qui nous aident à comprendre et nous aident à voir une différente réalité. La troisième chose, n'abandonne pas trop vite. N'abandonne pas trop vite. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a des situations dans la vie où voilà, peut-être que la bonne chose à faire, c'est justement d'abandonner. Donc, je ne parle pas de ces situations-là. Je parle vraiment, il y a des situations, des fois, où la meilleure chose à faire, c'est de se retourner et de prendre une autre direction. Okay? Mais je ne veux pas m'attarder à ça. Mais je veux parler de... Juste, n'abandonne pas trop vite. Je disais qu'on est une génération qui a une faible tolérance à la douleur. Et je fais une généralité, okay, parce que je sais que c'est ma réalité. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Mais personnellement, j'ai été élevé par un père militaire. Et qui m'aime beaucoup et qui est génial, j'adore mon père. Mais la réalité, c'est qu'il nous a élevés avec une certaine rigueur. Il nous a enseigné à faire la vaisselle tous les soirs. Je vous assure, si je laissais une fourchette traîner dans le fond du lavabo, on me rappelait pour la nettoyer. Donc, j'ai grandi de cette façon. Et laissez-moi vous dire, je suis sincèrement reconnaissant. Sincèrement reconnaissant parce que je sais que ça a développé mon endurance. Je sais que ça a développé ma résistance. Et souvent, je dis ça et je m'en moque un peu. Et je sais que mon père va sûrement écouter ce message, donc je t'aime, papa. Je voulais juste souligner le fait que parfois, on fait face à la douleur. Ou parfois, je ne sais pas, je prends l'exemple d'une situation professionnelle. Je connais tellement de gens qui, des fois, ils disent « Ok, voilà mon but, je veux devenir ça. » Genre, ils ont ce rêve, cette carrière en tête. Et c'est comme s'ils refusent de se soumettre au processus qui peut les amener à atteindre ce rêve. Comme si... Quand on voit quelqu'un en train de faire ce pourquoi il a été créé, c'est quand on voit quelqu'un qui est un homme d'affaires avec du succès, ou peut-être que votre rêve c'était dans le ministère, donc vous voyez un pasteur, vous voyez quelqu'un en train de conduire la louange, vous dites « Oh, j'aimerais arriver à ça ». Et c'est comme s'il y a cette incapacité de comprendre qu'avant d'en arriver là, cette personne a passé par différentes étapes. Est-ce que je peux... Sabrina, je donne toujours cet exemple. Quand elle est arrivée à l'église, elle ne conduisait pas la louange. Elle servait dans l'équipe café. La réalité, c'est qu'elle avait un don, elle avait une capacité, et pourtant, elle est arrivée, on lui a dit, bah, il n'y a pas d'audition pour le moment, et elle a dit, ok, pas de souci, je vais servir ailleurs. Et souvent, c'est ça, on a tendance à ne pas vouloir accepter peut-être le petit job. Je veux dire, mon premier job, c'était de livrer les journaux au Canada, dans l'hiver de moins 30, moins 40, tous les matins. C'est pas un super job, ça payait 20$ par semaine, c'était rien du tout. Et pourtant, je sais que ça a travaillé ma patience, je sais que ça a travaillé mon endurance, ça a travaillé ma résistance. Et c'est important de ne pas abandonner trop vite. C'est ça que j'essaye de dire. Si vous êtes dans une situation où vous dites, ça, c'est pas ce que je voudrais que ça soit, moi, je veux aller là et je suis ici et je comprends pas pourquoi ces choses sont comme ça. Si vous me dites peut-être que parfois, il faut savoir juste ne pas abandonner trop vite. Je souligne à nouveau que certaines situations, peut-être Dieu nous amène à abandonner. Hein. Avec le bon conseil des gens, je veux juste, prenez pas tout à la lettre, mais. Parce que parfois, on peut faire ça avec un message. Je m'adresse à 1000 personnes et quelqu'un va entendre le truc et dire « Ah, ça s'applique à ma situation » et que vous n'êtes pas forcément en accord avec la volonté de Dieu et vous pensez que... Non, interprétons les choses bien, mais voilà. N'abandonnons pas trop vite, ok ? La quatrième chose, ne t'inflige pas plus de tension qu'il ne le faut. Et ça, pour moi, c'est... Je reviens à la tension. Dans la prise, c'est du 220, 230 ? Vous avez dit quoi ? 220 ? Ça, on ne peut pas le contrôler. Mais parfois, on peut se faire un disservice alors qu'on rajoute de la tension dont on n'a pas besoin. Et ce que je veux dire par ça, je vais te donner un exemple, mais des fois, on prie pour certaines percées. Je pense à certaines personnes qui prient pour des percées financières. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de percées financières, des gens qui cherchent du travail et qui n'arrivent pas à en trouver, et c'est difficile. Et la réalité, c'est qu'on va prier pour ces choses. Mais parfois, il y a des gens qui prient pour des percées financières, quand en réalité, la meilleure prière qu'ils pourraient faire, c'est prier pour de la sagesse pour savoir gérer l'argent qu'ils ont entre les mains. Vous savez ce que je veux dire ? Pas toutes les épreuves auxquelles on fait face viennent du diable, vous savez ? Pas toutes les épreuves nous viennent du malin qui cherche à s'en prendre à notre vie. La réalité, c'est que parfois, il y a de la tension qu'on inflige à nos propres vies qui n'a pas lieu d'être là. Parfois, c'est justement le fait d'être en dehors de la volonté de Dieu. Donc, on prend des passages et on veut les appliquer à notre vie et dire que ouais, Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. Mais qu'en réalité, on prend des décisions qui nous mettent en dehors de la volonté de Dieu. Et on s'attend à recevoir la bénédiction de Dieu sur notre situation quand en réalité, on fait tout pour ajouter de la tension qui n'a pas lieu d'être là. Donc, ne t'inflige pas plus de tension qu'il ne le faut. Et de la sagesse pour demander, hey, Dieu, peut-être dans cette situation auquel je fais face, qu'est-ce que moi je pourrais changer ? Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle, auquel je vais juste me soumettre et croire que tu vas faire concourir les choses à mon bien ? Mais quelles sont les choses où c'est moi-même qui rajoute de la tension à ma vie ? Et peut-être la cinquième chose, et qui peut nous aider par rapport à ça, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. Laisse-moi vous dire, je suis reconnaissant pour les amis dans ma vie. Je suis reconnaissant pour les gens qui ne me disent pas toujours ce que j'ai envie d'entendre, mais qui me disent ce que j'ai besoin d'entendre. Je pense à, dans la Bible, encore tellement d'exemples. Il y a Job qui a fait face à toutes sortes de détresses, et qui était entouré par des amis, et même, si je ne me trompe pas, sa femme, à un moment donné, qui lui dit hey, « mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu ? C'est pas possible. Tu devrais parler contre lui, tu devrais le renier, parce que clairement, là, il n'est pas au contrôle de ta vie. » La réalité, c'est que les bons amis, les bonnes personnes autour de nous vont toujours nous encourager à voir plus grand et voir plus loin. Toujours. C'est comme l'histoire des espions. Il y avait les 10 espions qui sont revenus avec le « Ah, on va jamais y arriver. » Mais Josué et Caleb, ils ont dit « Ça peut le faire, on va le faire. » On a tellement, tellement besoin de s'entourer des bonnes personnes. Amen. Amen. C'est tout. C'est tout. Je vais nous inviter à nous lever. Est-ce qu'il y en a pour qui ça parle ? Est-ce que ça vous a encouragé ? Ça a encouragé quelqu'un ? Super. Est-ce que je peux prier pour nous? Prier que Dieu nous donne la sagesse cette semaine de ne pas juste entendre ce message, mais de savoir le mettre en pratique. Cool. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui transforme, ta parole qui touche chacun de nos cœurs. Seigneur, même quand on fait face à l'épreuve, quand on fait face à la détresse, notre prière ce matin, alors qu'on s'approche de toi, c'est que tu puisses te révéler à nous d'une nouvelle façon. Seigneur, alors qu'on fait face à la détresse, alors qu'on fait face à des situations qui sont hors de notre contrôle. On prie, Seigneur, que tu nous aides à ne pas être découragés, mais à capter ce que tu es en train de faire. À capter, Seigneur, comment tu utilises ces choses pour construire notre caractère. Comment tu utilises ces choses pour construire notre résistance? Comment tu construis ces choses afin que comment tu utilises ces choses pour que nos vies puissent avoir plus de puissance? Et donc, Seigneur, on s'en remet à toi ce matin, Seigneur. On demande que tu utilises nos vies, Seigneur. On se soumet à toi, Seigneur, et on veut entrer dans ta volonté et continuer à avancer et à persévérer, même là où ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on sait que tu utilises toutes choses et que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Dans le nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.hillsong.fr.